Vous écoutez RFI, il est 19h à Paris et Alger, 20h à Jérusalem et Beyrouth.
RFI soir, Romain Ouzoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une, le Liban, un cessez-le-feu à portée de la main.
Reste à savoir si l'opportunité sera saisie. Benjamin Netanyahou prend la parole dans la soirée. Cette éventualité d'un arrêt des combats entre Israël et le Hezbollah n'a pas empêché l'armée israélienne de bombarder encore aujourd'hui le Liban. Nous sommes à Beyrouth. Au sommaire également, protégé par son élection à la tête des États-Unis, Donald Trump voit s'éloigner les menaces judiciaires. C'est notre dossier. Guillaume Nodin nous attend à Washington. De sa prison, il harangue les foules. Via les réseaux sociaux, l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan réclame plus de manifestants pour demander sa libération. Des nouvelles de Boualem Sansal, l'intellectuel franco-algérien arrêté il y a plus d'une semaine à Alger, a été entendu par le parquet antiterroriste d'Alger, d'après son avocat. Nous serons aussi dans ce journal au procès Samuel Paty. Aujourd'hui, c'est la jeune fille qui a menti sur le contenu des cours de l'enseignant qui a été entendu. J'aimerais m'excuser auprès de la famille, dit cette jeune fille aujourd'hui âgée de 17 ans.
Et puis juste après ce grand journal du soir, Adrien, nous appellerons le média Politico qui tente de répondre à cette question. Pourquoi l'Europe, attaquée par la Russie, ne riposte-t-elle pas? Les actes de sabotage se multiplient et les services de renseignement russes sont montrés du doigt.
Et puis il y a du foot européen ce soir, Ligue des Champions à la une du journal des sports. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Le jour où un cessez-le-feu pourrait être annoncé au Liban, l'armée israélienne multiplie les bombardements. Alors que les informations sur l'imminence d'un arrêt des combats entre le Hezbollah et Israël se précisent, Benjamin Netanyahou s'exprime dans une heure à ce sujet. L'armée israélienne, elle, a fortement intensifié ses frappes aériennes aujourd'hui. Un bilan officiel provisoire fait état de 10 morts et d'une cinquantaine de blessés à Beyrouth. Paul Khalife, en direct de la capitale libanaise. Paul, Beyrouth, mais aussi de nombreuses villes, des localités dans le sud du Liban et dans la plaine de la Beka, ont été visées par cette vague de raids toujours en cours, l'une des plus violentes depuis le début de la guerre, Paul.
Oui, Adrien, du nord au sud, d'est en ouest, en passant par Beyrouth, c'est un vrai déluge de feu et de fer qui s'est abattu sur les Libanais en l'espace de quelques heures. Des embouteillages monstres se sont formés aux sorties de Beyrouth après des menaces israéliennes de cibler des régions résidentielles jamais encore visées, y compris le célèbre quartier de Hamra, au cœur de la partie ouest de la capitale. Même scène de panique à Saïda, à 45 km au sud de Beyrouth, où des habitants effrayés tentent de fuir vers des zones plus sûres après un raid sur un bâtiment d'une institution financière du Hezbollah dans la ville. L'aviation israélienne a commencé tôt ses bombardements sur la banlieue sud de Beyrouth où des vagues de raids successives ont encore détruit des immeubles résidentiels et des commerces. Les avions ont attaqué à deux reprises Beyrouth intramuros, ciblant un immeuble de 4 étages entièrement détruit et un appartement dans 2 quartiers mitoyens. Les chasseurs bombardiers ont lâché des leurres thermiques au-dessus du Grand Sérail, le siège du gouvernement libanais dans le centre-ville. La cité antique de Tyr, dans le sud, Baalbek à l'est ont été attaqués à plus d'une reprise. Les frappes ont provoqué des destructions considérables, transformant des rues entières en tas de gravats. Devant cette vague de violence, le ministère de l'Éducation a annoncé la fermeture des écoles et des universités dans tout le Liban demain mercredi.
Merci Paul. Paul Khalife en direct de Beyrouth. En pourparler depuis plusieurs jours, le cabinet de sécurité israélien accepte un cessez-le-feu avec le Hezbollah au Liban. C'est ce que rapporte la télé israélienne.
Et plus de détails dans notre prochaine édition de 20h, 19h TU. Nous appellerons Sami Boukhlifa, notre envoyé spécial permanent à Jérusalem. Autre grand titre ce soir, Adrien, aux États-Unis, l'horizon judiciaire qui se dégage pour Donald Trump.
Les poursuites sont abandonnées dans l'affaire de sa tentative d'empêcher la certification du résultat de l'élection présidentielle de 2020 et la victoire de Joe Biden. Nous sommes avec Guillaume Nodin à Washington. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
C'est le procureur lui-même qui a pris les devants.
Oui, Jack Smith, Jack le cinglé, comme l'appelle Donald Trump, le procureur spécial nommé par le ministre de la Justice, Merrick Garland, pour diriger les poursuites fédérales contre Donald Trump. Il a demandé l'annulation pure et simple des charges. Elles sont graves. Parmi les quatre chefs d'inculpation, il y avait notamment la conspiration en vue de frauder contre les États-Unis et conspiration pour entraver une procédure officielle. Le procureur met en avant la politique continue du département de la Justice de ne pas poursuivre les présidents en exercice. La juge en charge du dossier a rapidement accédé à la demande de Jack Smith. Sans préjudice, est-il précisé, cela signifie qu'hypothétiquement, et même si c'est très improbable, il n'est pas complètement impossible que la procédure reprenne après le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche.
Alors l'équipe Trump salue une victoire judiciaire totale.
Et elle a raison, parce qu'en plus de l'abandon des charges, de la fin du procès, Donald Trump, au cours de cette procédure, a obtenu une autre victoire majeure. La Cour suprême a reconnu le principe d'une immunité du président pour ses actes officiels. Cela signifie que Donald Trump, au cours de son prochain mandat, et aucun autre président après lui, ne pourra être poursuivi pour des décisions qu'il aura prises en tant que président. Cela n'existait pas avant ce procès avorté.
Guillaume, où en sont les autres affaires ?
Jack Smith était le procureur en charge de toutes les poursuites fédérales. Cela inclut le dossier des documents classifiés emportés par Donald Trump après son premier départ de la Maison-Blanche et saisi au cours d'une perquisition dans sa résidence de Mar-a-Lago. Là aussi, le procureur spécial demande l'abandon des charges, l'annulation des poursuites. Le dossier est actuellement en appel après la décision de la juge Cannon, nommée par Donald Trump, d'abandonner les poursuites. Il n'y a aucune raison qu'il ne connaisse pas le même sort que le dossier électoral.
Et qu'en est-il enfin dans la justice locale?
Alors, dans l'affaire dite Stormy Daniels, pour laquelle Donald Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d'inculpation de falsification de comptes, le juge Merchan a suspendu indéfiniment la peine qui devait être prononcée précisément aujourd'hui. Le fait de savoir si la procédure pourra reprendre quand le président élu quittera la Maison-Blanche est encore en discussion. Enfin, l'affaire de la tentative de renversement de l'élection en Géorgie, celle du fameux coup de fil où Donald Trump expliquait qu'il cherchait un peu moins de 12 000 voix. Elle est dans les limbes. Il n'y a même pas de procureur chargé officiellement de suivre le dossier.
RFI Washington, c'était Guillaume Nodin pour notre dossier de cette édition. Sur le plan politique aux États-Unis, Donald Trump, renouant avec la stratégie économique de son premier mandat, a relancé aujourd'hui l'inquiétude sur des guerres commerciales tous azimuts. Il menace la Chine, le Canada, le Mexique d'augmenter les droits de douane dès son arrivée au pouvoir le 20 janvier prochain. Cette peine de prison en Russie, 4 ans d'emprisonnement pour une journaliste russe condamnée par un tribunal régional de Sibérie à 4 années d'emprisonnement. Elle s'appelle Nika Novak. La justice russe lui reproche d'avoir travaillé avec un média étranger pour lequel elle aurait, selon l'accusation, contribué à produire du contenu qui discrédite l'armée russe.
18h, bientôt 8 minutes en temps universel. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur RFI avec Adrien Delgrange. Adrien, au Pakistan à présent, où des affrontements violents entre policiers et manifestants se sont produits.
Des dizaines de milliers de partisans d'Imran Khan réclament la libération de l'ex-premier ministre actuellement emprisonné. Une détention arbitraire selon l'ONU. Derrière les barreaux, il appelle à une mobilisation massive dans la capitale Islamabad. Le cortège de ses sympathisants s'est rassemblé dans le quartier administratif où ont eu lieu ces affrontements violents. 6 manifestants sont morts, selon le parti de l'ex-premier ministre. L'armée a même été déployée, Nicolas Roca.
Les images qui se répandent sur les réseaux sociaux témoignent des scènes de violence qui se déroulent ce mardi dans Islamabad. Aux tirs répétés de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, les manifestants répondent par des coups de bâton. La marche vers la capitale des militants du PTI, le parti d'Imran Khan, s'est heurtée aux barricades montées à la hâte par les 20 000 policiers paramilitaires déployés par le gouvernement. Des conteneurs empilés bloquaient l'accès à Dichouk, une place centrale d'Islamabad, proche du siège des autorités. Mais d'autres images montrent des manifestants sur la place en train de grimper sur ces mêmes conteneurs. Une nouvelle preuve que depuis sa cellule, Imran Khan, premier ministre de 2018 à 2022, reste un acteur majeur de la politique pakistanaise. Sa femme, tout juste sortie de prison, a galvanisé ses soutiens pour exiger sa libération. Mais les autorités restent pour l'instant fermes. Les rassemblements de plus de 4 personnes sont interdits dans plusieurs régions du pays et les écoles fermées à Islamabad. Dans le même temps, le parti de M. Khan et le gouvernement assurent mener des négociations.
Nicolas Roca, le président chilien. Julien, soupçonné d'avoir harcelé sexuellement une femme. Les faits présumés remontent à 2013. Gabriel Boric, âgé de 27 ans, venait de terminer ses études de droit. La plainte a été déposée au début du mois de septembre de cette année. La présidence chilienne confirme seulement aujourd'hui qu'une enquête est ouverte. Gabriel Boric, actuel président chilien, nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés.
En France, les agriculteurs poursuivent leurs actions.
Alors que l'Assemblée nationale se penche à l'heure actuelle sur le projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, nous sommes dans un instant en direct de l'Assemblée nationale. Un peu plus tôt dans la journée, des rassemblements ont eu lieu à travers le pays, notamment près de Paris, à Fleury-Mérogis, où une quinzaine d'agriculteurs ont filtré l'entrée d'un dépôt d'un supermarché avec leur tracteur. Ils refusent, disent-ils, d'être une monnaie d'échange pour l'Europe. Olivier Poisson est exploitant agricole dans l'Essonne.
Par rapport au Mercosur, ils vont avoir le droit, si ce traité passe, d'apporter des marchandises qui n'ont pas les mêmes normes de qualité que les nôtres, à des prix inférieurs forcément, donc viennent en concurrence avec nos productions et nous on ne pourra plus vendre nos productions tout bêtement. Ça aura un impact direct sur la rentabilité des exploitations agricoles. Ouais. Alors ils ont l'air de nous soutenir, on a rencontré des personnes, on sent bien qu'il y a des gens derrière nous, après aujourd'hui on s'attend à tout quoi. Au niveau européen, si les affaires passent, de toute façon, nous, on suivra, on n'aura pas le choix. Donc oui, si au niveau national, ils sont contre, c'est une chose, mais la guerre n'est pas finie.
Les agriculteurs français avec différentes actions aujourd'hui à travers le pays. Nous retrouvons en direct de l'Assemblée nationale française Charlotte Urien-Tomaca. Alors qu'à l'heure actuelle, le débat est en cours, puis s'en suivra un vote sur cet accord du Mercosur. Charlotte, pour une fois, tous les députés ou presque sont d'accord.
Oui, une fois n'est pas coutume, la classe politique se rejoint dans son opposition à cet accord poussé par Bruxelles. Une unanimité qui en dit long, car pour la majorité des députés, le traité de Mercosur est un mauvais texte. Les élus vont donc voter symboliquement, car le scrutin, selon l'article 50-1 de la Constitution, n'est pas contraignant. Un rare moment donc de concorde entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, l'a redit lors de sa prise de parole dans l'hémicycle ce mardi après-midi. Le Mercosur, c'est non. Le gouvernement espère donc un vote unanime ce soir pour renforcer la position de la France face à Bruxelles. Mais les députés insoumis ont d'ores et déjà annoncé qu'ils s'abstiendraient.
Charlotte Urien-Tomaca en direct de l'Assemblée nationale.
Également en France, la suite du procès concernant l'assassinat de Samuel Paty.
Au procès ce matin de cet enseignant qui a été assassiné par un terroriste, la collégienne qui avait accusé à tort le prof d'histoire-géo d'avoir montré des caricatures de Mahomet nus a été entendue par les juges. Après une campagne calomnieuse sur les réseaux sociaux, l'enseignant français avait été décapité par un jeune musulman d'origine tchétchène en 2020. L'adolescente a commencé sa prise de parole par des excuses au tribunal de Paris. Le récit d'Amélie Beaucourt.
À la barre, la jeune fille de 17 ans répond timidement aux questions du président de la cour d'assises. Visage fatigué, tête baissée, elle s'adresse à la famille de Samuel Paty, son professeur d'histoire géo. « Je suis désolée d'avoir détruit votre vie », souffle-t-elle, alors que les larmes coulent sur ses joues. « Pourquoi des excuses si tardives ?» demandera l'avocate de la famille. « Parce que c'est la dernière fois que je peux prendre la parole », répond-elle. « Ça me tenait à cœur de finir avec ça ». L'adolescente, âgée de 13 ans au moment des faits, se décrit comme une collégienne turbulente qui perturbait la classe, raison pour laquelle elle aurait été exclue du cours de Samuel Paty. C'est pour couvrir ses problèmes de comportement qu'elle a prétexté avoir été virée parce qu'elle était musulmane. Elle raconte ensuite l'engrenage infernal d'un mensonge égoïste qu'elle ne parviendra plus à stopper. Ça n'est qu'après 30 heures de garde à vue, après l'attentat, qu'elle finira par tout avouer. Avec le recul, elle dit mesurer la gravité de son acte. Si quelqu'un doit être condamné aujourd'hui, ce ne sont pas les personnes qui sont dans ce box, c'est moi. Dans ce box, il y a son père, Brahim Chtina, accusé d'avoir réalisé et diffusé une vidéo qui cible Samuel Paty. Il risque 30 ans d'emprisonnement.
Compte rendu d'audience signé Amélie Beaucourt au procès Samuel Paty.
Dans le Grand Journal signé ce soir, Adrien Delgrange. Merci beaucoup à vous, Adrien.
RFI Soir. Romain Ozoui.
Alors cette question, pourquoi l'Europe attaquée par la Russie, pourquoi l'Europe ne riposte-t-elle pas? Les actes de sabotage se multiplient et les services de renseignement russes sont montrés du doigt. Le média Politico s'intéresse à ce phénomène et tente d'apporter des réponses. On appellera la journaliste en charge de ce dossier dans quelques minutes. Puis en France, la 40e campagne hivernale de l'organisation Les Restos du Cœur, lancée il y a peu, savez-vous que un bénéficiaire sur dix est un bébé. Une antenne dédiée aux mamans des plus petits City se trouve au cœur de Paris. Nous y serons dans les prochaines minutes. Pour l'heure, voici les sports sur RFI. Avec Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Romain, belle chemise.
Merci, vous également, va falloir la repasser. Football, cinquième journée de la Ligue des Champions. Première salve, 9 matchs en tout ce soir, et notamment un Bayern Munich PSG qui va valoir cher pour les deux équipes.
Et deux grands qui se font petits depuis le début de la compétition. Le Bayern est 17e sur 36 avec 6 points en 4 journées. C'est encore pire pour le PSG, 25e. 4 points, PSG éliminé pour l'instant, mais toujours sûr de ses forces, le milieu de terrain Vitinha avec Cédric de Oliveira.
On sait qu'on va affronter une très très belle équipe avec grands joueurs de classe mondiale. Ça fait pas mal de matchs qu'ils n'ont pas encaissé de but, je pense. On sait bien quelle équipe on a en face. Nous, on va essayer de le contrarier. On va étudier bien le plan de jeu. On va parler avec le coach. Et nous, si on suit le plan de coach et on dose tout ce qu'on a, on va sortir d'ici avec un résultat très positif.
Voilà, résultat positif selon le milieu de terrain Vitinha, c'est en tout cas ce qu'espère le Paris Saint-Germain, et c'est aussi ce dont rêve Brest, les Bretons en déplacement à Barcelone chez le leader du championnat d'Espagne.
Et ce rêve est permis, les Brestois, pour leur première participation à la Ligue des Champions, épatent l'Europe du football. 3 victoires, un bon match nul face au Bayer Leverkusen pour une 4e place provisoire, en tout cas avant cette 5e journée. Près de 3000 supporters bretons ont fait le déplacement pour ce match historique face au Barça, poussé par un vent d'ouest, bien sûr, un vent d'optimisme contagieux. L'entraîneur Éric Roy en conférence de presse.
On a joué contre Monaco il y a 4 jours, qui est une équipe qui a battu cette équipe du FC Barcelone. Alors, c'est vrai, avec cette match qui a fait qu'ils sont restés en supériorité numérique longtemps dans le match, donc ce qui a certainement aidé. Mais c'est la preuve qu'en foot tout est possible et que même pour nous, même si ça paraît quelque chose d'assez, pratiquement nul sur le papier, on essaiera de jouer notre chance à fond.
Les coups d'envoi de Barcelone-Brest et de Bayern-Munich-PSG dans un peu plus d'une heure et demie maintenant.
Oui, ce sera 20h temps universel, comme pour d'ailleurs 5 autres matchs d'une soirée décidément de Ligue des Champions qui ne va pas manquer d'intérêt.
Ah non, on suivra de près notamment le choc entre le Sporting de Lisbonne, 2e du classement, et Arsenal. Manchester City en grande difficulté dans son championnat reçoit le Feyenoord de Rotterdam. L'Inter Milan, 5e de la Ligue des Champions, reçoit de son côté Leipzig, l'une des 5 équipes avec 0 point. Les Young Boys de Berne, également dans ce club des 5 cancres, accueillent l'Atalanta Bergame, et le Bayer Leverkusen est opposé à Salzbourg. 5 plus 2, ça nous fait 7 matchs sur 9. Il en manque 2, si on compte bien, Romain, et ça tombe bien puisqu'il y a 2 rencontres en cours. Elles opposent le Slovan Bratislava au Milan AC, 1 partout après un peu plus de 30 minutes. 30 minutes passées également à Prague, où le Sparta, pour l'instant, est mené sur son terrain par l'Atlético de Madrid.
Ah bah voilà qui est complet pour cette soirée de Ligue des Champions. Alors Paul Pogba, le footballeur Paul Pogba, aurait pu jouer ce soir, mais sa carrière est à l'arrêt en raison d'une suspension pour un dopage, et son nom est, bien malgré lui, associé à un procès.
Le procès de 6 proches du champion du monde 2018, accusé d'avoir tenté de lui extorquer 13 millions d'euros. Procès qui s'est ouvert ce matin à Paris, sans son personnage principal, Paul Pogba, absent de l'audience qui se poursuit toujours ce soir malgré une demande de renvoi formulée par la défense et refusée.
Allez, dans l'actualité sportive hors football, le point sur le Vendée Globe.
Les marins solitaires en sont au 16e jour de leur tour du monde à la voile, et au classement, statu quo, Charlie Dalin toujours devant à grande vitesse dans l'Atlantique Sud avec 30 000 nautiques d'avance sur Thomas Rouillant, et tout le monde est vraiment très très rapide. En tout cas, les 5-6 bateaux qui se tiennent en moins de 100 000 enchaînent des records de vitesse vraiment très très impressionnants.
On sait quand est-ce que devrait arriver le premier
aux alentours du 25 janvier. On en est loin. Mais le prochain passage intéressant, c'est le cap de Bonne-Espérance, donc tout à fait au sud du continent africain, a priori pour la tête de flotte en fin de semaine.
Ah ben voilà, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Thomas de Saint-Léger, pour le journal des sports sur RFI. 19h19, ici à Paris. la Russie durcit le ton à l'égard des Européens. Les exemples montrant une guerre hybride menée par le Kremlin sont nombreux. On en parle à présent avec Laura Kayali du Média Politico. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous signez un long article sur ce sujet. Alors, ce n'est pas nouveau le fait qu'on évoque la guerre hybride de la Russie à l'égard de l'Union Européenne. Cette guerre s'illustre notamment via les campagnes de désinformation. Mais vous écrivez que les services de renseignement russes passent désormais à la vitesse supérieure. Comment est-ce que cela se traduit-il ?
C'est-à-dire que ce sont des actes qui deviennent violents, une violence physique. Il y a quelques années, c'était des campagnes de désinformation, d'interférence dans les processus électoraux. Et là, on voit une accumulation d'incendies, de sabotages. On parle même d'un complot pour assassiner le PDG de Rheinmetall, qui est l'une des principales entreprises d'armement en Allemagne. Donc en fait, on passe dans une violence dans le monde physique. Et c'est réellement un changement et une accélération de la menace.
Récemment, il y a des colis piégés qui ont explosé. Ça, c'est un bon exemple de cette menace qui grandit.
Exactement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de victimes à déplorer, mais ça peut faire ce sont des actions qui peuvent faire des morts, en fait, des morts et des blessés. Donc, c'est autre chose que quelques bots russes sur les réseaux sociaux. Je dis pas que c'est pas quelque chose de sérieux, la désinformation, mais là, on parle de potentielles victimes physiques.
Mais alors, justement, si ça peut faire des morts et des blessés, pourquoi utiliser ce mot hybride quand on parle de guerre hybride entre la Russie et l'Union européenne?
Alors, il y a plusieurs explications. Déjà, ce mot de hybride, tout le monde ne le valide pas, entre guillemets. Ce qu'on cite dans l'article, c'est le ministre des Affaires étrangères lituanien qui dit que les Européens se cachent derrière ce mot hybride. Et lui, il appelle ça plutôt du terrorisme. Mais ce qu'il dit, c'est que si on appelle ça du terrorisme, on doit répondre, on doit agir, alors qu'en appelant ça hybride, les Européens peuvent continuer à se cacher derrière leurs petits doigts.
Alors justement, c'est la question qui est en titre de votre article. Pourquoi l'Europe ne riposte-t-elle pas ? Est-ce pour cette raison ? Parce que c'est pas parce qu'on se cache derrière cette idée que ce n'est entre guillemets qu'une guerre hybride de la part de la Russie ?
Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a des raisons entre guillemets institutionnelles. Si on prend l'OTAN par exemple, pour l'instant, les membres de l'OTAN estiment que ce que fait la Russie ne se qualifie pas d'un réel acte de guerre. Donc on n'est pas en train de parler de tanks qui sont en train de rouler vers l'Estonie. Et donc ça ne, du coup, pour l'instant, ils estiment qu'il ne faut pas déclencher ce qu'on appelle l'article 5, qui est la réponse collective de l'OTAN. Donc ça, c'est une première raison entre guillemets institutionnelle, et c'est sur ça que joue la Russie, évidemment, parce qu'on n'est plus vraiment en paix, mais pas encore tout à fait en guerre. Et donc c'est cette zone grise qui est assez compliquée à gérer. Et ce que dit le chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhard, dans le Figaro le mois dernier, c'est que l'OTAN n'a pas nécessairement les outils, car c'est une institution, une organisation qui est faite pour gérer la guerre au sens plus traditionnel du terme.
Ça, c'est du côté de l'OTAN. Qu'en est-il du côté de l'Union européenne ?
Alors, l'Union européenne a inauguré un nouveau régime de sanctions qui vise spécifiquement les actes hybrides, donc la désinformation, les sabotages, les attaques des infrastructures critiques, etc. Mais la nuance que l'on pourrait mettre, c'est qu'il y a eu suffisamment d'articles ces derniers mois pour dire que les sanctions liées à la guerre en Ukraine n'ont pas réellement eu d'effet. L'économie russe continue relativement de tourner grâce à tous les autres pays. En fait, les sanctions, on est un peu le nez dedans, mais les sanctions sont appliquées majoritairement par les Occidentaux. Or, il y a quand même beaucoup d'autres pays dans le monde. Donc, les sanctions sont limitées. Certes, il y a un nouveau régime, mais est-ce que ça sera efficace ? C'est une question ouverte.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ce sera ma dernière question, pour éviter que cette guerre hybride menée par la Russie à l'égard de l'Union européenne continue d'être grandissante.
Alors, ce que disent les personnes que l'on a interviewées pour cet article, c'est qu'il faut continuer à aider l'Ukraine. Que la guerre hybride russe a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de déstabiliser les pays occidentaux, donc ça, c'est pas nouveau. Mais le deuxième, c'est de montrer que aider l'Ukraine a un coût. Et donc, ce que les analystes à qui on a parlé disent, c'est que la meilleure réponse, c'est de continuer à armer l'Ukraine pour s'assurer qu'elle gagne la guerre. En fait.
Attaquée par la Russie, pourquoi l'Europe ne riposte-t-elle pas la question que vous posez dans un long article dans le Média Politico? Laura Kayali, merci.
Merci à vous.
En France, les multiples visages de la pauvreté ou quand les bébés sont touchés, on estime qu'ils constituent 10%, donc un bénéficiaire sur 10 des Restos du Cœur. L'organisation qui vient de lancer sa 40e campagne de distribution alimentaire, une antenne Restos du Cœur bébé, se trouve même au cœur de Paris où elle accueille des mamans sans ressources, le plus souvent africaines, 120 familles inscrites dans cette structure. Laurence Théo s'est rendue sur place, reportage.
Stylo à la main, Catherine, responsable de l'association, est à son bureau. Elle reçoit les mamans une à une et sur rendez-vous, car cette annexe des Restos du Cœur ne se contente pas de donner de la nourriture.
On fait de l'accompagnement des familles et non pas d'une simple distribution. Ce qui veut dire que toutes les familles qui viennent ici sont reçues en entretien individuel par une bénévole. Ça dure à peu près 20 minutes, une demi-heure. On s'enquiert de leur logement, où elles en sont de leurs papiers. Et uniquement en fin d'entretien, on fait la distribution de lait, de couches, de petits pots si l'enfant est en âge. On donne de l'hygiène et on donne des vêtements.
Ce sont surtout des mamans avec leur bébé dans les bras qui poussent la porte. Une fois inscrites, elles reviendront toutes les 3 semaines.
C'est des mamans qui, en règle générale, comme vous pouvez le voir, sont d'origine africaine. J'ai pratiquement 60% de mamans de Côte d'Ivoire. Alors, les critères pour les restos bébés, c'est les gens qui n'ont pas de papier et qui ont zéro revenu. Et pour les gens qui ont des papiers, celles qui ont moins de 300 euros de revenus. Nous, la majorité des mamans, c'est des femmes étrangères.
Kouamé a un peu plus d'un an. Il s'accroche à la jambe de sa maman, Mariam, 32 ans, vit dans la grande précarité.
J'ai besoin des couches et le lait, avec des vêtements aussi. Honnêtement, je n'arrive pas à les acheter. Je n'ai aucune ressource. Je cherche un travail, mais si je n'ai pas de papier, c'est un peu compliqué.
Si dans ce local, l'ambiance est chaleureuse, tout ici est très organisé, à l'image de Catherine, humaine mais rigoureuse.
Moi, je ne veux pas que les mamans se servent, parce que si une maman prend 3 boîtes de lait, elle a peut-être la 3e, elle n'aura plus rien. Ils sont reçus dans l'autre pièce, et dans cette autre pièce, je vais vous montrer, on a des placards dans lesquels il y a la nourriture, mais on n'est pas un supermarché, hein. Il faut quand même être clair et net là-dessus. Donc ça, c'est le placard des laits. On a un placard pour les couches, numéro 3, numéro 4, etc.
Ça coûte très cher, hein, tout ça.
Très très cher. Je voulais une fois faire le total de ce qu'on donnait à une maman. Parce que quand vous donnez une boîte de lait qui coûte dans le commerce, mettons 12 euros minimum, un paquet de couches, que vous donnez du lait de toilette, que vous donnez les petits pots, je ne sais pas à combien on est, mais on sait, oui, ça fait beaucoup.
Virginie, bénévole, explique que le Resto du Cœur bébé ne peut pas toujours répondre à la demande en forte augmentation.
Vous avez les mamans qui ont traversé Paris avec leurs poussettes sous la pluie et qu'on n'a pas assez de choses à leur donner, on a mal au cœur, nous. Hein.
Qu'est-ce qui manque en ce moment ?
Produits d'hygiène, énorme, produits d'hygiène pour les bébés.
Au moment de partir, on croise le petit Kouamé, très fier de porter un nouvel anorak.
Voilà, reportage signé Laurence Théo au Resto du Cœur bébé dans le 1er arrondissement de Paris. On revient dans un instant sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Achaqué et Travis Scott.
Finalement,
Dina.
Pourquoi vivre normalement ? Si tout peut finir maintenant, pourquoi réfléchir sagement ? Finalement, oui, tout se mal, c'est pour le bien. Oui, tout se mal, c'est pour le bien. Finalement,
les frères Timal. Luigi.
Hey, Tébi, tu sais déjà que toi c'est le sang, c'est la famille. Je n'ai jamais vraiment aimé comment on s'habille, ton petit ami.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
On en donne beaucoup, qu'on se contente de peu.
RFI.
Et il est 18h28 en temps universel. Une toute dernière info. Elle concerne le Proche-Orient, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, qui dit que le cabinet de sécurité va adopter un cessez-le-feu au Liban, je cite, ce soir. Tous les détails à suivre dans le journal de 19h, temps universel. Nous appellerons notamment Sami Boukhalifa. Et puis juste après, puisque je vous donne un peu le programme, sachez qu'il y aura Accent d'Europe. Ce sera dans votre session reportage du soir. Nous serons en Allemagne le jour où paraissent les mémoires de l'ex-chancelière Angela Merkel. Mais pour le moment, dans une minute, c'est Sylvie Berruet. C'est la première édition d'Afrique Soir. Merci de votre fidélité à la Radio Mondiale.
Appelez-nous, exprimez-vous
Nathalie Amar.
Au Sénégal, après la large victoire du PASTEF aux législatives, l'exécutif a les mains libres pour agir. Mais pourra-t-il tenir toutes ses promesses? Lutte contre la corruption, contre la vie chère, accès à l'eau, à l'électricité. Quelles doivent être ses priorités? Votre avis nous intéresse.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Ce mercredi sur RFI,
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent avec Vincent Louchez du Média en ligne Reporter, Véronique Robérode de France Culture et mes collègues de RFI, nous reviendrons entre autres sur la COP29 et les difficiles conditions de travail des journalistes en Azerbaïdjan.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.